revenu si nombreux ce soir, malgré les difficultés que l'on peut rencontrer lorsque l'on cherche à traverser Paris dans cette soirée de manifestation. Je remercie principalement M. Millet de bien vouloir nous donner cette conférence sur la psychologie en entreprise. Nous pensons que la psychologie est un domaine qui rencontre énormément d'applications qu'on ne soupçonne pas. Pourtant, dans l'entreprise, toute une philosophie de l'homme est véhiculée. Cette philosophie peut être matérialiste, elle peut être spiritualiste, elle peut même être gnostique. Monsieur Millet vous en parlera ce soir. Je lui laisse la parole.
Je vous remercie, monsieur le recteur, de m'avoir convié à participer à ce cycle et de m'avoir proposé de faire cette conférence. Proposition que j'ai acceptée avec un enthousiasme imprudent, me fondant sur mon passé, et que j'ai ensuite non pas regretté, car le passé ne doit pas être regretté quand il n'y a pas de faute, mais que j'ai trouvé que mon acceptation avait été un peu présomptueuse, parce que j'ai connu les problèmes de la psychologie en entreprise lorsque j'étais directeur de l'Institut de psychologie de Grenoble, comme monsieur le recteur vous l'a rappelé la dernière fois, et que, à ce titre, d'une part, dans la tradition de l'université classique, je refusais de séparer la psychologie de la philosophie, la psychologie ayant besoin de la philosophie pour savoir où elle va, déboucher des problèmes de description aux problèmes de sens et de finalité, et inversement, la philosophie ayant besoin de la psychologie, faute de quoi elle risque de se perdre dans le verbalisme. Nos maîtres, Aristote, saint Thomas, pour ne citer que les plus grands et les essentiels, les absolument nécessaires, nous ont appris qu'on commence par la physique, la psychologie, pour aboutir à la métaphysique, à l'ontologie. Donc, dans cette tradition de l'université française, j'ai maintenu, en tant que directeur de cet institut, le lien entre la psychologie et la philosophie, d'une part, et d'autre part, j'ai tenu à prendre des enseignements qui manifestent ce lien, qui soient ce lien lui-même. Et en particulier, alors j'ai pris des enseignements qu'on appelle psychologie sociale, terme un peu vague, mais qui permet d'échapper au côté individualiste de la vieille psychologie, au côté excessivement comportementaliste de toutes les psychologies actuelles, expérimentales et autres, pour situer l'homme dans la réalité où il doit vivre, de par sa nature, animal raisonnable, animal social, c'est-à-dire dans les groupes sociaux. Dans les groupes sociaux, d'abord par sa dimension sociale elle-même, et ensuite par les différentes relations qu'il a. Et enfin, toujours dans cette perspective de l'enseignement de psychologie sociale, j'ai pris la charge, pendant un certain nombre d'années, de la psychologie du travail. Alors c'est à ce titre que je me suis trouvé en rapport avec des entreprises, ayant moi-même jadis, il y a de cela fort longtemps, travailler à beaucoup de niveaux différents de la vie des travailleurs, depuis les niveaux les plus simples jusqu'à des niveaux un peu plus élevés, donc ayant déjà une expérience personnelle de l'obéissance, des tâches matérielles, et retrouvant cela donc dans mes fonctions professorales, dans mes rapports avec soit les travailleurs, soit les responsables de personnel, soit même, car nous avions fondé un groupe très intéressant les chefs d'entreprise. Nous avions fondé dans les années 68 un groupe qui s'appelait groupe de prospective, je vous en dirai peut-être un mot tout à l'heure, et qui réunissait un certain nombre de chefs d'entreprise et de responsables de Grenoble et de la région. Malheureusement, les événements post-68 d'abord et post-ensuite ont fait capoter les travaux que nous pouvions faire, car l'université s'est peu à peu refermée sur, à l'intérieur de ses murs et a secrété une espèce d'idéologie qui était très fortement appuyée sur le marxisme et toutes les théories qui tournent autour, et à peu rejeté toute relation avec le monde du travail. Là, j'ai lutté, j'ai protesté. On en voit les conséquences maintenant. Je me souviens avoir dit à mes collègues dans les années 68, 69, 70, attention, l'université, si elle n'est pas ouverte sur la vie du travail, sur la nation, sur les réalités sociales, elle va tourner en vase clos, c'est-à-dire qu'elle va produire des professeurs d'université, des étudiants qui seront de futurs professeurs d'université, c'est ce qui se produit. Le seul débouché maintenant, c'est à peu près celui-là. C'est un peu mince, évidemment. Je sais bien que la population étudiantine s'accroît, mais comme les crédits ne s'accroissent pas en proportion, les débouchés pour les étudiants, surtout dans ces matières de sciences humaines, sont extrêmement restreints. Mais ces paroles, appuyées d'exemples, de faits, n'ont malheureusement pas été entendues. Et c'est dans mon modeste secteur, si vous voulez, c'est un des points dans lesquels on pouvait voir se préparer ce que nous constatons en ce moment. Donc c'est à ce titre que M. le recteur m'avait demandé de venir vous parler des problèmes de psychologie du travail. Or, je me suis rendu compte, car j'ai repris la question, que depuis que j'ai laissé ce type d'enseignement et ces formations, la situation a beaucoup évolué. Je vais donc vous proposer, en somme, trois perspectives successives. Je vais me placer d'un point de vue historique. Je partirai de ce qui a constitué l'origine des problèmes actuels du travail, c'est-à-dire l'industrialisation sauvage qui s'est peu à peu imposée dans nos pays occidentaux et qui a détruit l'ancien tissu social. Je rappellerai quand et à quelle date. Ensuite, à partir de cette industrialisation sauvage, nous verrons, je pense, surgir avec une nécessité naturelle, je veux dire par là, tenant à la nature de l'être humain, nous verrons surgir un certain nombre de problèmes qui, effectivement, ont rendu la vie des travailleurs à tous les niveaux de plus en plus difficile et finalement tragique, d'où une recherche de solutions à ces problèmes, et ça sera le point suivant, avec les sciences humaines, les sciences dites humaines, et singulièrement la psychologie, la psychosociologie du travail, bien entendu, classique, c'est-à-dire jusque vers les années, disons, 70-75. Et ensuite, je ferai le point de la situation actuelle depuis ces 10 dernières années, en gros. Alors pour cela, je vous demande à l'avance votre indulgence, parce que un cycle d'une année n'y suffirait pas. Je suis allé me promener dans des librairies, dans des bibliothèques, et il y a des rayons entiers concernant les problèmes de psychologie du travail, de communication dans l'entreprise, de management participatif, de cercle de qualité, etc., etc., qui exposent l'état actuel des recherches, des applications, et je vous en donnerai un aperçu du point de vue qui me paraît le plus fondamental. Et puis ceux d'entre vous qui connaissent la question beaucoup mieux que moi, je tâcherai d'être bref, j'espère qu'ils compléteront ce que cet exposé un peu simple, enfin qui essaye de dégager les grandes lignes, ce que cet exposé aura d'insuffisant. L'origine, c'est donc... Alors, monsieur le recteur a proposé comme titre, et j'ai trouvé ça tout à fait génial, « Des temps modernes, entre guillemets, au nouvel âge ». Alors, les temps modernes, bon, tout le monde a ces images présentes à l'esprit, Et c'est effectivement l'origine, tout au moins ce qui touche, ce qui expose, ce qui manifeste clairement d'une manière lumineuse cette industrialisation sauvage. On voit ce pauvre Charlie Chaplin qui est là à courir après la chaîne, à courir après la machine, en tournant sa clé, et finalement il est entraîné par la machine. Voilà le film visible, en quelque sorte, si je puis dire. Le film visible au double sens du film des temps modernes et du visible de ce qui se passait. Mon père était ouvrier à la chaîne chez Citroën, vous voyez, donc il a vécu cette situation. Et je la connais donc par le témoignage direct que je pouvais avoir quand j'étais enfant. Le point de départ, je vais très vite parce que c'est connu, c'est Taylor avec l'organisation scientifique du travail. Taylor, au début de ce siècle, l'organisation scientifique, quelle prétention, la science, mais quelle science? Eh bien, il le dit lui-même, c'est, je cite, l'utilisation maximum de l'outillage, donc dans le machinisme, la spécialisation stricte, autrement dit, pour reprendre un titre célèbre, le travail en miettes, et la suppression des gestes inutiles. L'homme est l'annexe de la machine. Il est un opérateur mécanique, le but étant le rendement, et parallèlement, très peu de temps après, mais d'ailleurs appliquant l'OST, nous avons Ford, Henry Ford, bon, le grand producteur de voitures, qui a eu cette idée géniale dans sa perspective, d'augmenter le salaire et la production, de façon à ce que ses ouvriers est assez pour acheter ses voitures et que le cercle puisse donc tourner d'une manière bien huilée et que la production s'accroissant puisse tout de même s'écouler. Le consommateur, qui est l'opérateur, est donc dans ce cycle de production un simple chaînon. Il n'est plus simplement un chaînon dans l'organisation scientifique du travail, mais il est aussi un chaînon dans l'organisation économique générale de ce système qui est, vous le reconnaissez bien entendu, le système du capitalisme libéral. Système qui, au point de vue de la production, sépare la conception de l'exécution. Simone Weil, qui a été travaillée en usine avant la guerre, la grande philosophe, hein, j'entends, W, celle qui est morte à Londres, attention, pas de confusion, hein. Elle est morte, elle n'a pas tué, hein. Simone Weil, elle est morte de faim parce qu'elle ne voulait pas manger plus que les Français. Elle était en Angleterre et elle pensait que les Français étaient réduits à leur ticket de rationnement. Bon, Simone Weil avait donc travaillé, vous savez qu'elle est morte baptisée, hein. elle a donc travaillé en usine pendant une année entière, et là elle avait le témoignage de ses ouvrières qui étaient très amères. Nous n'avons rien à dire, d'autres sont là pour penser à notre place. D'autres sont là pour penser à notre place. C'est-à-dire qu'on dépouille l'être humain de sa faculté propre qui est la raison. C'est ça la séparation de la conception et de l'exécution dans ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Les informations, donc, qui sont des ordres simples, le plus simple possible, sont transférées le plus rapidement possible et il n'y a pas de retour d'information. On exécute. On a eu assez vite les conséquences qui sont bien connues de ce système dans l'absentéisme, le turnover, les grèves, les accidents. Et les Américains, dès les années 30, ont fait des études scientifiques de corrélation entre l'excellence de l'organisation scientifique et l'accroissement des accidents. Corrélation positive. D'où la recherche d'amélioration des conditions de ce travailleur exécutant. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, dans les années 30, est apparue cette discipline, la psychologie du travail, dans laquelle cet exposé s'inscrit en quelque sorte. Les USA étaient en première ligne, et l'exemple qui me paraît le plus intéressant Et le plus caractéristique, c'est celui d'Elton Mayo. Elton Mayo est allé étudier à la Western Electric. Il avait fait des études dans un certain nombre d'usines. Mais là, il est allé étudier quelles seraient, il a été les rechercher, quelles seraient les conditions de travail les meilleures en vue d'un rendement plus grand et par conséquent d'éviter tout ce qui grippe la machine de production, les accidents, l'absentéisme et le reste. Alors il a changé les conditions, il a pris des groupes d'ouvrières, c'était surtout des postes féminins d'ailleurs, il a pris des groupes d'ouvrières et il les a mis dans des environnements de travail différents quant à la lumière, quant à la couleur des murs, quant à la musique ou pas la musique, l'habillement, les horaires, la façon dont commandent les chefs, etc. Et il a cherché si tel ou tel ensemble, constellation de conditions, était meilleur que les autres. Et à sa grande surprise, il s'est aperçu que, quelles que soient les conditions matérielles dans lesquelles ces équipes d'ouvrières étaient mises, il y avait accroissement du rendement par rapport à ce qui se passait d'ordinaire. Quelques petites différences, mais vraiment de la poussière, des broutilles, des différences non significatives. Alors, c'est une surprise, parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Il s'était posé un problème matériel, un problème d'environnement, un problème d'organisation matérielle de la tâche, et il trouve que ça n'est pas à ce niveau-là que le mal résidait. Eh bien, ils ont découvert, Elton Mayo et son équipe, que les ouvrières qu'il avait prises comme espèce de cobaye, enfin comme groupe à étudier, se sont senties tout à coup intéressantes et intéressées. Intéressantes pour quelqu'un, les psychologues qui étaient là, et intéressées par la recherche. Et c'était ça le seul facteur commun à toutes les modifications. Le seul facteur commun résidait dans la relation entre ces équipes et des êtres humains. Rien n'était changé. Elles étaient toujours à la tâche parcellaire, etc. Mais on les considérait comme des êtres humains. On a donc découvert ainsi, dans cette industrialisation sauvage primitive, le facteur humain. Voilà. Et ça sera le deuxième point. Ce premier point d'introduction voulait simplement vous indiquer comment on en était arrivé là. Ce n'est pas gratuitement que les psychologues sont arrivés dans l'industrie. On a fait appel à eux et voyant que cela avait du succès, on a multiplié des postes de psychologues et de psychosociologues. Donc, première étape historique au sein de cette industrialisation, les sciences humaines pénètre dans l'entreprise. Alors, ce sera donc l'objet de la psychosociologie américaine. On découvre donc progressivement l'importance du besoin d'être reconnu comme être humain, c'était fait déjà par Elton Mayo, puis l'importance de l'équipe de travail. On le sentait déjà, certains le sentaient, il y avait des contremaîtres qui faisaient passer et qui tenaient bien leur équipe et d'autres qui ne faisaient pas passer les ordres et tenaient mal leur équipe. De l'équipe de travail, donc, de son mode de fonctionnement, des relations internes et bien sûr du chef. On a découvert ensuite l'importance du besoin d'appartenance à un groupe. Et c'est pourquoi on a cessé de lutter contre les syndicats dès lors qu'ils arrivaient à se glisser dans le système, car ils servaient de dérivatifs. On redécouvre la nature sociale de l'être humain, zoon politikon, disait Aristote, animal politique, animal social. On n'aurait jamais dû l'oublier, bien entendu. Et toujours la psychosociologie américaine étudie l'importance du style de commandement. les différents styles de commandement. Alors, il y a le style de commandement autocratique, il y a le style de commandement bureaucratique, il y a le style du commandement dit démocratique. Je dis bien dit démocratique, parce que en fait, c'est une apparence de démocratie. Il faut que les gens puissent s'exprimer, mais en retour, dans les modes d'expression, on coule peu à peu, et c'est ça tout l'art de la psychosociologie du travail, on coule peu à peu ce que l'on attendait d'eux. Je n'insiste pas, donc ce sont déjà des travaux presque préhistoriques. En France, le but est toujours le rendement. En France, c'est mon second point dans cette partie historique-là, après la psychosociologie américaine, en France, nous avons Friedman, qui est un philosophe. Friedman a consacré ses thèses à l'histoire de la philosophie, en particulier à Leibniz, et puis il s'est tourné vers ces problèmes du travail. Et il est important de voir que des philosophes, ici, ont un rôle à jouer pour éclairer les problèmes concernant les sciences humaines. Friedman a mis l'accent surtout sur les besoins physiologiques. Vous savez que ses ouvrages sont célèbres, « Le travail en miettes », etc. En miettes, le travail est perdu dans des petites activités séparées, émiettées. Il a découvert, entre autres, quelque chose que le bon sens n'aurait jamais dû faire oublier, à savoir que ce que Taylor et sa tendance appelaient « geste inutile » est peut-être inutile du point de vue de la machine, mais nécessaire du point de vue de l'homme. La physiologie humaine, les dépenses d'énergie par les muscles, le squelette, le système nerveux humain, a besoin de satisfaction matérielle, de satisfaction gestuelle, autre que d'être là simplement à tourner avec une clé, un boulon, par exemple. D'autre part, l'ergonomie qui se développe, qui s'est développée en France à cette époque-là, et aussi aux États-Unis d'ailleurs, l'ergonomie, toujours en vue d'obtenir le meilleur rendement possible, a visé à adapter non plus l'homme travailleur au poste de travail où il se trouve, mais à organiser le poste de travail pour qu'il soit accepté par le travailleur. Autrement dit, il y a eu là des recherches très précises au point de vue psychophysiologique. Il y avait des gens qui étaient formés en physiologie et même en médecine, d'une part, et au point de vue mécanique, au point de vue du fonctionnement mécanique même des appareils, des machines, d'autre part, fonctionnement physiologique et fonctionnement mécanique qui devaient se rencontrer pour que le second, c'est-à-dire le fonctionnement mécanique, soit accepté et même favorable au fonctionnement physiologique. Cela en vue de faire en sorte que le rendement soit le meilleur possible. Donc, adaptation du poste à l'homme. Ça a été cela. Ergonomie, ergon, c'est l'œuvre, les lois du fonctionnement de façon à obtenir les œuvres les plus réussies possibles. Ça, c'était le second point. C'est presque préhistorique ce que je vous dis là. Dans les années 60, troisième point, sont apparues, surtout au niveau des cadres, les pratiques dites groupales. La psychologie sociale est devenue psychologie des groupes. Et d'abord, le très célèbre Jacob Lévy Morino, m'excuse, tout le monde le connaît, mais en fait, il y a peut-être quelques personnes qui hésiteraient sur l'orthographe de son nom. Vous avez son gros livre, Who Shall Survive, excusez-moi pour la prononciation, qui a été traduit en français il y a une vingtaine d'années sous le titre « Les fondements de la sociométrie ». Curieuse traduction pour « Who shall survive ?» Qui survivra, qui pourra survivre. Enfin bref, au PUF, au Presse universitaire de France. C'est un très gros livre de 400 pages qui fait le point, le résumé, en somme, des recherches. Moreno est un personnage extrêmement intéressant. Une séance ne suffirait pas à parler de lui. Je dirais simplement deux choses. C'est l'anti-Freud. Il est viennois comme Freud. C'est l'anti-Freud. Et dans sa jeunesse, il se prenait pour Dieu le Père, pas moins. Et il réunissait ses camarades autour de lui pour être... Vous serez les anges, moi je serai Dieu le Père. Et il faisait un échafaudage, les anges devaient volter autour, et lui devait monter au sommet de l'échafaudage. Mais les anges voltaient si bien que patatras, tout est tombé, et le pauvre Moreno en premier. Bon, cela pour vous dire l'ambition du personnage et son sens du théâtre, déjà, tout jeune. Et il a développé un certain nombre de techniques et de méthodes. Le théâtre de spontanéité, c'est-à-dire qu'il rassemblait des jeunes gens, quand il était étudiant, pour non pas leur faire jouer des pièces toutes cuites, si je puis dire, mais leur donnant un canevas, faire en sorte que l'un aura le rôle de l'usurier, l'autre le rôle du pauvre bougre qui a besoin d'argent, une troisième le rôle de l'épouse du dit pauvre bougre, etc. Et alors, débrouillez-vous, il faut que ça marche. Bon, chacun devra arriver à constituer le rôle peu à peu. Vous voyez. C'est l'ancêtre du fameux Living Theater que nous connaîtrons dans les années 60 et quelques et qui fera pas mal de ravages, comme vous savez. Il découvre également les méthodes d'étude des groupes dans le sociogramme, qui est un moyen de déterminer comment s'établissent concrètement les relations d'acceptation ou de rejet ou de désir de travailler avec, etc., dans un groupe. Alors, il a fait ça d'abord chez les étudiants, et des schémas représentatifs, avec des flèches qui indiquaient les attraits, les répulsions, etc., permettaient de se faire une image très parlante du fonctionnement d'un groupe. Et on voyait pourquoi tel groupe ne marchait pas et tel autre marchait bien. Les gens étaient à leur place ou ne l'étaient pas. Sociogramme, donc, à ne pas confondre avec le sociodrame, qui est dans la continuation du théâtre de spontanéité et qui est le jeu social des problèmes qui existe dans une collectivité. Par exemple, il y a eu, je crois que c'est à Brooklyn, dans les années, je ne sais plus quoi, 60 et quelques, une représentation célèbre des conflits raciaux. Et ma foi, c'est un peu comme le sociodrame d'aujourd'hui. Quoi. Ça n'a pas tellement bien tourné. Et le psychodrame. Le psychodrame, c'est une méthode qui a connu un très très grand développement en France. Je ne vous en dis que deux mots parce qu'on ne peut pas tout développer. Vous en avez d'ailleurs entendu parler. Elle consiste à réunir une douzaine en gros de personnes, un groupe qu'on appelle de face à face, c'est-à-dire un groupe tel que dans le temps réduit dont ils vont disposer, quelques jours, chaque membre peut percevoir et connaître profondément chacun des autres. Donc 12, 15, voyez, petit groupe, autour d'un moniteur qui est un psychologue, dont le rôle, vous allez voir, est assez particulier. Et ces personnes arrivent, sont reçues quelquefois très somptueusement, à prix d'or, bien entendu, soit sur leur bourse, soit sur la bourse de l'entreprise. Et pendant ces jours de session, 3 jours, quelquefois 4-5, ils vont se livrer à une espèce de psychanalyse groupale informe, fort curieuse, dans laquelle le maître, si je puis dire, qui est là, le psychologue qui est là, ferme la bouche au début. Il dit 3-4 phrases, vous êtes réunis, vous savez pourquoi. C'est pour fonctionner en groupe, il n'y a pas de programme, chacun arrive et dit ce qu'il veut, et moi je ne dis rien. Mais de temps en temps, je vous dirai où vous en êtes. Mais ne me demandez pas d'intervenir, j'interviendrai quand je trouverai bon. Alors, ces réunions de psychodrame ont connu une fortune, je ne parle pas de la fortune de ceux qui les organisent, bien sûr, mais une fortune au sens de leur extension, comme traînée de poudre, considérable pendant ces années, à partir des années 60 et quelques. Et j'ai pas mal de collègues qui ont participé activement à cette fortune de, vous voyez ce que je veux dire, de ces psychodrames. Alors, les entreprises sont entrées dans le jeu et ont payé à leurs cadres, alors là, c'est pour les cadres, des sessions de ce genre. Pourquoi, je me suis toujours demandé pourquoi les entreprises envoyaient ainsi des groupes. C'est probablement pour, d'une part, une question de prestige, montrer que nous aussi, nous pouvons nous payer cela. On va retrouver ça d'ailleurs aujourd'hui. On retrouve cela aujourd'hui avec les gourous d'aujourd'hui qui ne fonctionnent plus selon ce même système, mais au point de vue financier, c'est pareil. Donc, nous sommes capables d'offrir ça à nos cadres. Hein, je suppose, hein, je n'ai pas eu les secrets. Je ne suis jamais entré dans le système. Je l'ai étudié comme ça de l'extérieur. J'ai eu des échos, mais je m'en suis gardé comme de la peste ou du choléra, je ne sais pas. Deuxièmement, cela... par voie de conséquence, attache l'édit cadre à l'entreprise. On a fait ça pour nous. Alors, il faudra bien quand même rendre quelque chose. Bien. Et puis, il est probable que ce genre d'activité de communication sans programme, j'insiste bien là-dessus, on part sans programme, il n'y a pas de tâche. Imaginez la situation. On est là et on ne sait pas du tout qui sont les autres, on ne les connaît pas. Il faut se tutoyer, s'appeler par ses prénoms. Bon. Et c'est tout. On peut dire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a des phases de grande angoisse. Et pour certains êtres, c'est une très profonde déstabilisation, comme on dit. Qui se marque au niveau personnel, au niveau de la vie de couple, car les femmes ou les maris qui sont là ne sont pas là en couple. Hein. L'autre moitié reste à la maison. Et bon. Alors, que va-t-il se passer après ? On a eu pas mal d'échos de conséquences que vous pouvez deviner. Il y a donc une sorte de destruction des repères. Imaginez-vous dans ce vide-là. Destruction des repères qui fait que l'être après sera beaucoup plus facile à manipuler. Et je pense que cette aptitude à être manipulable, donc à être beaucoup plus souple avec la reconnaissance à l'égard de l'entreprise, a dû être considérée comme des conséquences heureuses. Dépendance, résultat donc de ces pratiques de dynamique de groupe, dépendance par rapport à cette idéologie qui repose en définitive sur des postulats très proches de la psychanalyse, la permissivité, l'absence de règles objectives de morale, c'est la même chose dit autrement, et puis la dépendance à l'égard de l'entreprise. Très voisin, mais je ne veux pas insister, parce que vous pouvez tout de suite voir où est la convergence. Nous avons le célèbre Carl Rogers, dont l'œuvre célèbre « Le développement de la personne » date déjà aussi de plusieurs décennies, et qui, lui, est d'une part un psychologue de clientèle privée et individuelle, avec comme principe l'entretien doit être centré sur le client. Lui aussi, en un sens, est un anti-Freud. Mais tous ces anti-Freud sont anti-Freud comme ça, dans les décors. Mais au fond, quand on regarde bien, il y a les mêmes postulats que dans le freudisme. On verra cela un petit peu plus tard. L'entretien est donc centré sur le client, et de cet entretien individuel centré sur le client, on passe ensuite à des modes d'entretiens de groupe qui sont eux aussi centrés sur le groupe, sans que ce soit avec les méthodes propres de Moreno, d'une manière où il y a tout de même une recherche d'un certain contenu. Chacun sait qu'il devra dire quels sont ses problèmes et les exprimer de la manière la plus claire, la plus objective, etc. Et l'écoute est, comme on dit, neutre, objective, etc. Mais cette écoute neutre, objective, va, elle aussi, vers la permissivité. Car il n'est hors de question d'essayer d'orienter les personnes qui sont là vers des règles objectives. L'écoute objective, cela signifie que celui qui écoute n'intervient pas et que ce sont les subjectivités. L'écoute objective, ça veut dire libération des subjectivités. Vous voyez comment les mots peuvent, détournés de leur sens, finir par signifier le contraire. Tandis que la véritable objectivité, c'est celle des normes, des règles, qu'il faut peu à peu parvenir à découvrir et exprimer. En troisième lieu, nous avons toujours dans ces méthodes groupales l'école dite de Palo Alto. Alors Palo Alto, c'est en Californie, et le maître dont je vais vous parler, c'est Vaclavik, d'origine polonaise, comme vous pouvez le deviner, de formation psychanalytique jungienne, et qui a tout gardé de Jung, sauf l'inconscient. Mais je n'ai pas trouvé qu'il y ait une très très grosse différence entre l'origine et l'aboutissement. Il s'agit de constituer la des méthodes dites systémiques, c'est-à-dire on cherche à voir le fonctionnement d'un système, qui veulent être des thérapies, méthodes de guérison donc, groupales, dans le groupe, par le groupe, comportementales, thérapie groupale comportementale, c'est-à-dire qu'on va soigner le groupe en étudiant et en modifiant son comportement. Quel comportement ? Les communications dans le groupe. Alors que ce soit, ils se sont attaqués, si je puis dire, au sens presque physique du terme, aux familles, et évidemment aussi à d'autres groupes, l'école, l'entreprise, etc. On étudie en quoi y a-t-il différence avec Jung ? Eh bien, c'est qu'on va étudier surtout ce qui se passe ik et nunc, comment les gens se comportent et comment ils communiquent ici et maintenant. Et on va chercher ce qui ne va pas dans ces communications. Comment fonctionne le système social ? Le système social, dans ses communications telles qu'elles sont, est tenu pour la seule réalité. C'est ce qui est dit qui est la réalité. Et il suffit que ce qui est dit soit dit de façon à être entendu, et que ce soit entendu, donc réciproquement, pour que le groupe fonctionne. Donc, pas de règles objectives, destruction de toute autorité. Alors, dans les thérapies systémiques familiales, celui sur lequel on tire à boulet rouge, c'est le père de famille, bien entendu. Ça, c'est, d'ailleurs, on est habitué depuis une trentaine d'années. Pourvu que les communications passent. Oui, c'est ça le but. La communication pour la communication. Le média pour le média, peu importe le message. On retrouve là des thèmes qui sont tout à fait contemporains. Les médias, c'est de la technique. On fait passer, mais on ne cherche pas à savoir ce que vaut ce qui passe. Nous avons ici la préparation du New Age. Palo Alto, c'est le point de départ du New Age. La côte ouest, la Californie, qui, nous dit-on, est ce qui nous attend à l'avenir, c'est notre futur, voyez les travaux d'Edgar Morin et autres, Palo Alto, c'est dans ce creuset, à l'Institut ESALEN, E-S-A-L-E-N, comme ça se prononce, L-E, attendez, et, oui, L-E-N, c'est ça, je dis bien, ESALEN, c'est là que s'est forgé le creuset de ce monde dont monsieur le recteur nous parlait la dernière fois, qui est celui du Nouvel Âge. Il y a, vous voyez là, une coordination très très profonde. Peu importe ce que vous croyez, pourvu que ça marche. Un quatrième aspect de l'introduction des sciences humaines dans l'entreprise, c'est l'étude théorique abstraite des communications avec des ingénieurs. Bon, je vais passer très vite parce que je m'aperçois que l'heure tourne. En particulier des ingénieurs, eux aussi, à la Western Electric, Shannon et Weaver. Alors, eux ont fait l'étude... Non, c'est pas Western Electric, c'est Bell. Bell Corporation, je crois. Enfin, bref, peu importe. Ils ont étudié comment, de la source au destinataire, les communications par relais passaient, ne passaient pas, l'entropie, c'est-à-dire le trouble des informations, comment rectifier l'entropie, par quel procédé, le feedback, c'est-à-dire la rétroaction. Le feedback, je vous dis quelque chose, j'émets une information, vous la recevez du moins, je l'espère, mais elle me revient. Je m'entends et je sais ce que je viens de dire. Et si je m'aperçois, je perçois que je n'ai pas dit tout à fait ce que je devais, je reprends. Vous voyez, c'est ça le feedback. C'est le retour sur l'émetteur de l'information ou d'autres choses. Enfin, par exemple, il y a des feedbacks au niveau des synapses. Bon, enfin, bref, tout retour de ce qui est émis par l'émetteur, que ce soit signifiant ou que ce soit matériel, sur ce qui a émis, est un feedback. Alors... Les Shannon et Weaver ont étudié cela. Bon, malheureusement, je ne veux pas... c'est un petit peu loin, si vous voulez, de la psychologie. Il y a eu des résultats extrêmement intéressants de leurs travaux. Et ils sont arrivés, ces ingénieurs, à découvrir quelque chose d'important grâce, justement, à la mise en valeur de l'importance des feedbacks, que les feedbacks dans la communication humaine sont tout autres que les feedbacks matériels. Un feedback dans une machine n'est pas du tout pareil qu'un feedback dans une émission d'informations par un être humain. Le feedback de la machine qui envoie des informations, ordinateur, terminal, etc., va amener à grand T sur votre cadran. Erreur. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est ça le feedback. Tandis que, dans ce cas-là, hein, tandis que moi, le feedback humain, c'est ce qu'ils ont découvert, ces ingénieurs-là, c'est des ingénieurs tout à fait scientifiques, hein, c'est que le feedback humain, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire la réflexion, et qu'on ne trouve ça nulle part ailleurs. Découverte très importante. Alors, il faut que ce soit des ingénieurs qu'on pourrait croire matérialistes qui aient découvert cela. Cinquième point, la psychosociologie du travail en France, alors avec des travaux qui datent de 10-15 ans à peu près, Claude Lévy-Leboyer et autres, ont découvert, mais là je vais passer très vite aussi, l'importance des surcharges d'informations. On est tous dans les surcharges d'informations, ils en viennent de tous les côtés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça fait? J'espère ne pas vous envoyer une trop grosse surcharge d'informations. Sinon, vous vous défendez. Alors là, il n'y a rien à faire. La capacité d'attention ponctuelle et dans la durée étant limitée, on se défend. L'esprit humain se défend. Il y en a qui ont une capacité plus ou moins grande, mais il n'empêche qu'il y a une autodéfense contre les surcharges d'informations. Et d'autre part, l'importance d'informations ou de connaissances, plus exactement, supposées possédées par... Supposez que je vous fasse un cours, j'espère que je ne l'ai pas fait, semblable à celui que je faisais à mes étudiants, en utilisant le vocabulaire, les présupposés que les étudiants qui me subissaient pendant des années possédaient. Vous seriez, pour un certain nombre d'entre vous, en train de vous dire, mais de quoi veut-il nous parler? Et à juste titre, vous pourriez protester. voyez, et là, on a découvert aussi l'importance de ces connaissances supposées connues. Bien sûr, ce sont des choses de bon sens, me direz-vous. Malheureusement, le bon sens n'est pas la chose du monde la mieux partagée, comme disait Descartes. Je termine sur un sixième point, toujours concernant l'introduction de ces méthodes groupales. C'est, je vais vous en parler un petit peu parce que nous l'avons utilisé, c'est le synergomètre. Ah, c'est beau, ça. Le synergomètre qu'un de mes amis appelait l'énergoscope. Le synergomètre, attention, ça, le synergomètre du professeur Roger Micheli. Roger Micheli est un de mes amis qui est mort il y a quelques années, qui a été, qui est philosophe, qui a fait des thèses philosophiques, puis qui a enseigné également à la psychologie, et qui a mis au point, il a fait beaucoup de choses, bon, enfin, je passe sur les détails, et il a mis au point un appareil, si on veut, entre guillemets, qu'il appelle le synergomètre, c'est-à-dire pour mesurer comment ça marche avec, hein. Sun en grec, c'est avec, vous retrouvez dans synthèse, etc. Alors comment les gens sont les uns avec les autres, sin, ergon, enfin comment même ils œuvrent, hein, parce qu'il y a ergon, ils œuvrent les uns avec les autres, comment le travail en collectif se fait. Alors vous voyez que déjà, rien que dans ce que je viens de vous dire là, nous sommes à l'opposé de l'auberge espagnole du psychodrame, où chacun arrive en apportant son casse-croûte, c'est-à-dire n'importe quoi. Là, au contraire, il va y avoir une tâche. Voilà de quoi, en quoi ça consiste. Imaginez une pièce comme celle-ci, en continuant simplement les deux murs qui partent du mur du fond et en arrêtant la pièce à ce niveau-là. Au centre, vous avez une construction en bois avec des séparations, six petites cases, avec dans chacune de ces cases une table, une chaise. Et sur le côté, vous voyez, hein, vous avez donc il y a donc des cases qui sont délimité par des séparations en bois, et puis dans chaque case une table et une chaise, avec sur le côté des petits guichets qui permettent de passer des informations aux gens qui sont à droite et à gauche. Soit il y a des numéros pour la personne qui est tout de suite là, alors supposons que j'ai le numéro 6, j'ai ici le 5 et j'ai ici le 1, puis le 5 a le 4, etc. Vous voyez, hein. Alors je passe un papier sur lequel je ne peux le passer qu'au 5 ou 1, bien entendu, sur lequel je mets pour le numéro 2 ou 3 ou 4. Et il y a ainsi soit une information, soit une demande. Et dans quel but? Eh bien, dans le but de résoudre un problème qui est proposé au groupe, à ces six personnes. C'est un problème, ça va durer, les premiers problèmes vont demander une heure ou deux de travail. Mais les derniers seront suffisamment complexes pour que ça prenne la journée, avec une petite récréation quand même, parce que ça fait du brainstorming, comme vous en dites. Bon. Alors, chacun a un petit capital d'information, et il ne sait pas ce qu'ont les autres. On sait, le groupe sait quel est le problème à résoudre. C'est par exemple, on est dans un restaurant, le premier problème qui est très simple, c'est le problème du menu. On est dans un restaurant, chacun arrive avec 50 francs, je suppose, bon, je prends la monnaie d'aujourd'hui, et on veut avoir le meilleur menu possible sans dépasser la somme et en la dépensant si possible en entier. Alors chacun a quelques petites informations sur les prix de ceci, de cela, etc. Alors il faut faire en sorte que le groupe s'entende pour constituer soit six menus, soit un menu commun. Ils se débrouillent, hein, ça c'est à eux à voir, et que le capital soit dépensé. Alors c'est ce que je vous dis là, ça a l'air tout simple, quand on discute autour d'une table ça va tout seul, mais là on n'a pas toutes les informations. Le but, vous direz pourquoi faire ça, on ne fait pas ça quand on est à table, heureusement, sinon le garçon attendrait une heure. Pourquoi? Eh bien, derrière chaque couple, c'est-à-dire ici, et regardons donc là et là, se trouve un psychologue qui est formé, qui connaît le fonctionnement classique, enfin traditionnel, des étapes successives de la vie du groupe, et qui regarde comment les gens communiquent, et qui après les réunit et leur explique pourquoi ça a bien marché, il y en a qui vont très vite, et pourquoi au contraire ça n'a pas bien marché. C'est donc pour que chacun prenne conscience de la nécessité de coopérer. Et comment on coopère? On ne garde pas pour soi, on passe aux autres, qu'est-ce qu'il faut passer, à qui il faut demander, et comment concrètement ça se passe. Il y a donc, à la faveur de cette espèce de brainstorming, une formation à l'écoute, à l'envoi de l'information, à la réception de l'information, à la compréhension, etc., qui est extrêmement intéressante. Alors, pourquoi est-ce différent du psychodrame? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une tâche à accomplir. On ne vient pas là dans le vide, on vient là pour faire quelque chose. Bien sûr, me direz-vous, c'est artificiel, et jamais dans une usine, ça ne fonctionne comme ça. Évidemment, on ne peut pas mettre les gens en situation réelle, puisqu'il s'agit d'étudier les communications et, au besoin, de se trouver face à des communications qui ne marchent pas. Donc, il y a des risques, et les risques, on ne peut pas les prendre dans la réalisation effective du travail. C'est un peu comme à l'école, où si on fait une faute dans sa dictée, ça n'est pas trop grave. Tandis que si on fait une faute dans la lettre ou dans le rapport qu'on remet à son patron, je parle dans la tradition, bien entendu, on risque de se faire mettre à la porte. Alors, le synergomètre était un moyen d'études extrêmement intéressantes, comme vous voyez. Les résultats, quels furent les résultats de cette introduction de la psychologie, de la psychosociologie dans le monde du travail? On peut s'interroger sur leur positivité. Y a-t-il eu vraiment un accroissement de rendement? Oui, parfois. Mais vous savez que les conflits ont continué, que l'absentéisme, les tensions se sont poursuivies. Il y a un résultat positif indubitable que vous devinez tout de suite, c'est que les entreprises de cession ont, elles, gagné de l'argent. Mais les entreprises qui envoyaient en cession en ont-elles gagné? Ça, c'est une autre question. Quel est l'effet sur les êtres humains? Donc, résultat très mitigé. Tout ce qui est de l'ordre dynamique de groupe, rogérien, etc., aboutit à une espèce de souplesse psychique qui correspond à la perte de la colonne vertébrale. On devient des invertébrés. Ce n'est pas ça la véritable souplesse. On perd ses principes, alors après on peut être manipulé. Il est beaucoup plus facile, regardez les foules d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on manipule? Est-ce que nous serions laissés manipuler comme cela? Enfin, je parle des anciens de mon âge, bien sûr, jadis. Ça paraît impossible. D'abord, nous n'aurions jamais eu l'idée. Mais même si on avait voulu le faire, ça paraît absolument impossible. Comment se fait-il que... Et il y a des jeunes aujourd'hui qui refusent de se laisser manipuler. Nous avons eu des échos par une de nos collègues qui enseigne dans un lycée pourtant proche de la banlieue 93, où nous ne verrons, donc dans un lycée très défavorisé. Ces élèves ne veulent pas y aller. Donc, tout le monde ne se laisse pas manipuler. Pourquoi se laisse-t-on manipuler? Parce qu'on a perdu ses vertèbres, sa colonne vertébrale. Et le résultat de tout cela, c'est précisément de faire des êtres invertébrés. Invertébrés moralement et socialement. Et donc, mûrs pour toutes les tyrannies. Bien, ça, c'était donc l'état historique jusqu'à... il y a peut-être une dizaine d'années, en gros. J'arrive à mon dernier point. Quel est l'état actuel des entreprises de communication? Il est extrêmement complexe. Je vous ai dit que j'avais vu à peu près une centaine d'ouvrages qui traitent de la question. Je vais essayer de vous donner les grandes lignes, et puis, dans la discussion, nous verrons si des lumières peuvent être apportées, soit par certains d'entre vous, soit par moi, si je les ai. Je vais m'en tenir à quatre aspects. D'abord, l'ergonomie contemporaine. différente de l'ergonomie découlant de l'organisation scientifique du travail que nous avons vu tout à l'heure, en vue du rendement. Le poste, vous voyez, transformé en fonction de l'ouvrier, en fonction du travailleur, en vue du rendement. Bien sûr, l'ergonomie, c'est toujours de l'ergonomie. Mais il ne s'agit plus simplement d'adapter le poste, mais il s'agit de faire une analyse précise et globale de la production dans une unité de production, par exemple l'atelier, de façon à voir, non pas seulement, mais le travail de production de cette unité. Vous savez qu'on va de plus en plus maintenant vers des unités de production auxquelles on essaye de donner une responsabilité, donc une certaine autonomie. On va même dans certaines entreprises à commander à tel atelier, on lui fournira les matières, le personnel, les crédits, etc. Et on lui commande de fournir tel type de, d'accessoires ou de pièces de moteur, voire de moteur, etc. Alors, on arrive là avec des chercheurs contemporains, vous voyez, à un autre mode d'analyse et de mise en rapport des conditions de travail avec les travailleurs. Alors, deux noms ressortent en France, c'est de Montmolin, je ne les mets pas au tableau parce que c'est comme ça se prononce, Mont, comme un mont, M-O-N-T, Molin, M-O-L-I-N, de Montmolin. D'une part, il a publié plusieurs ouvrages récemment. Je vous donne les titres. Vous allez voir tout de suite dans quelle perspective on se situe. L'intelligence de la tâche. L'intelligence de la tâche. Vous voyez ? L'intelligence. Pas simplement l'organisation du travail de telle sorte que le rendement de ce monsieur qui est là soit le... C'est même plus un monsieur, c'est un opérateur, hein, soit le plus fécond possible. Non, l'intelligence de la tâche. C'est-à-dire qu'on fait appel, tout de suite on situe le problème au niveau de l'espèce humaine, du spécifiquement humain, être intelligent. Et puis, un autre ouvrage qui est plus technique, éléments, au pluriel, d'ergonomie cognitive. Alors le cognitif, c'est le grand mot à la mode de toute une tendance de la psychologie expérimentale moderne depuis une dizaine d'années environ. Cela signifie tout ce qui concerne la connaissance, depuis la perception jusqu'à l'élaboration des idées, en passant par la mémoire, l'imagination, etc. Tout ce qui n'est pas affectif, si vous voulez. Tout ce qui est réception d'informations, émission d'informations, traitement des informations, communication, invention, etc. Alors, le cognitif, c'est, là encore, c'est l'intelligence, bien entendu. C'est l'intellectus de saint Thomas, c'est le nous d'Aristote. C'est la différence spécifique de l'homme, bien sûr. Alors, on voit bien le renversement, hein. Maintenant, il s'agit d'étudier le savoir nécessaire à l'équipe productrice et, par voie de conséquence, comment doivent être organisés les modes de production pour que ces savoirs puissent fonctionner et produire efficacement. Un autre nom, c'est celui de Sperandio. Sperandio, c'est comme ça se prononce aussi, S-P-E-R-A-N, Sperandio, D-I-O, Sperandio. Sperandio, lui, utilise les systèmes experts, ce qu'on appelle les systèmes experts. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Enfin, ceux d'entre vous qui ont entendu parler de ce type d'utilisation des ordinateurs par l'analyse des contenus scientifiques de ce qu'un expert possède, de façon à ce que ça puisse passer dans l'ordinateur et que ce soit utilisé, ceux d'entre vous qui ont un peu étudié ça voient à quoi je fais allusion. Les autres auront compris les quelques mots que je viens de dire. Il s'agit de pouvoir exploiter au mieux les connaissances d'un expert dans un secteur déterminé. Seulement, vous me direz, il y a un progrès, et c'est évident. Mais le malheur, c'est que ce progrès étant dans la perspective idéologique d'une sorte de matérialisme, même s'il n'est pas marxiste, c'est tout de même un matérialisme, ce progrès repose en effet sur le postulat moniste, sur le postulat qui essaye d'unifier comme si c'était de même nature la machine, l'ordinateur et l'intelligence humaine. D'où cette expression extrêmement curieuse qui aurait fait bondir il y a 20 ou 30 ans d'intelligence artificielle. Une machine n'est pas intelligente et une intelligence n'est pas une machine. Or maintenant, on prétend que les ordinateurs de la énième génération, je ne sais pas laquelle, c'est la troisième, est une intelligence artificielle. Voyez donc l'idéologie qui est là-dessous. C'est-à-dire que entre cette production matérielle qu'est l'ordinateur et cette fonction propre à l'âme humaine qu'est l'intelligence et qui est la marque de notre une des marques essentielles avec la volonté de notre état d'image de Dieu, de notre créature image de Dieu, cette intelligence n'est pas propre à l'homme puisqu'on la retrouve dans la machine. Voilà le postulat de réduction et mutilation de l'intelligence humaine. Et cette mutilation, on pourrait faire toute une étude pour montrer, je l'ai fait d'ailleurs dans un article qui va paraître dans quelques temps, dans une revue qui s'intitule Psychologie et foi, où j'ai essayé de montrer que l'Institut y est abonné, j'ai essayé de montrer que l'intelligence de l'âme humaine a des propriétés que aucune organisation matérielle ne peut avoir, pas même le cerveau. Non seulement pas les ordinateurs, mais pas même le cerveau. Le cerveau n'est pas le producteur de l'intelligence humaine. Et les thèses, c'est une simple parenthèse, mais c'est extrêmement important, les thèses modernes, par exemple, de Changeux, professeur au Collège de France, l'homme neuronal, réduire l'homme à ce système des neurones, thèse matérialiste, sont inacceptables, non pas parce que ça ne nous plaît pas, mais parce qu'elles ne marchent pas, elles ne collent pas avec la réalité, elles n'expliquent pas la réalité. Et on peut voir chez certains blessés profonds du cerveau que des disparitions importantes de la masse cérébrale n'empêchent pas, au bout d'un certain temps, des récupérations extraordinaires de fonctions. Le cerveau, c'est un outil de l'intelligence, de l'âme humaine, ce n'est pas du tout le producteur. Le cerveau ne produit pas la pensée comme le foie produit la bile. Le foie produit la bile, certes, mais le cerveau est, pour la pensée, son outil actuel. Et saint Thomas, après Aristote, disait que l'intelligence n'a pas d'organes, pas même le cerveau. Alors, a fortiori, une machine qui n'arrive pas aux performances du cerveau ne peut-elle pas produire des types d'informations, de compréhension, de synthèse, telles que l'intelligence humaine? C'est là le point faible, l'erreur, mais je ne développe pas, je vous donne simplement quelques indications sur des points sur lesquels nous reviendrons peut-être plus tard pendant ce cycle, qui sont évidemment de la plus grande importance. Nous avons le fils d'un de nos amis qui travaille dans une grande entreprise nationalisée et qui a une double formation d'ingénieur des mines et d'ergonome. Il a fait le diplôme d'études supérieures d'ESS de psychologie du travail en ergonomie. Et là, il essaye de mettre en œuvre dans cette entreprise nationalisée de très, très grand calibre, de mettre en œuvre ses connaissances d'ingénieur et de psychologue. Et il m'a expliqué, en gros, que y a un travail très, très important à faire pour que le travail, même déjà simplement au niveau des cadres, au niveau de la recherche, puisse se faire humainement d'une manière satisfaisante. Bon, je suis tombé simplement pour vous donner un exemple, vous dire qu'il existe maintenant, concrètement, depuis peu, des postes qui sont des postes spécifiques, spécialisés, avec une tâche précise dans des entreprises. J'en arrive maintenant, je vous ai dit que je me tiendrai à quatre aspects de l'état actuel de la communication dans les entreprises, donc l'ergonomie contemporaine. Le deuxième aspect, je vais être obligé d'aller vite, c'est les célèbres cercles de qualité. Les célèbres cercles de qualité dont vous avez probablement plus ou moins entendu parler, qui nous viennent du Japon. Le Japon a fortement impressionné nos contemporains par son aptitude à envahir le monde de ses produits. Et d'où vient cette aptitude ? Du fait que les produits japonais ont une qualité qui, à prix égal, ne se trouve pas dans les produits de nos vieux pays. Et à quoi cela tient-il ? Eh bien, on a découvert que ça tenait au fait qu'au Japon, il y a, paraît-il, 1 million de cercles de qualité. Un cercle de qualité, c'est un groupe qui, dans une entreprise, a pour objet d'arriver à produire les choses qui vont sortir de la maison, primo, répondant effectivement aux besoins de la clientèle. Il ne s'agit pas de produire pour produire, mais il faut produire ce qui correspond à un besoin. Alors peut-être qu'on va agir, qu'on va manipuler pour que des besoins apparaissent, c'est autre chose. Enfin, et deuxièmement, que la satisfaction de ce besoin soit faite de telle sorte que la chose n'est pas de ratée. Que ça marche. La qualité. Le zéro faute. Alors, pour cela, il faut que les travailleurs voient ce qu'ils vont faire, soient en rapport avec l'organisation de la maison, avec le commercial, etc. Et qu'ils aient des réunions. Il y a des réunions qui ne sont pas des réunions où on discute dans le vide, mais bien centrées sur la tâche, et qu'on arrive ainsi maintenant à ce qu'on appelle la qualité totale, c'est-à-dire le zéro faute, la satisfaction totale des travailleurs et des clients. Le zéro défaut. Enfin, je dis le zéro faute, c'est en fait le zéro défaut. Alors, nous avons invité une fois quelqu'un qui maintenant joue un rôle très important dans ces cercles de qualité à la maison, quelqu'un qui s'appelle René Robin, qui a soutenu devant Paris Dauphine une thèse sur les cercles de qualité où il a étudié leur introduction en France depuis le Japon. C'est une thèse en sciences donc des organisations, voyez, à Dauphine, et il montre que le conflit lui-même, c'est la faute, c'est le défaut qu'il faut arriver à faire disparaître, car quand il y a conflit, il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Que une bonne entreprise, c'est ce qui se passe au Japon d'ailleurs, doit donner des emplois à vie. Et je me souviens avoir participé il y a 2 ou 3 ans à une session où le directeur du personnel, je crois, enfin quelqu'un qui travaillait très haut dans le service du personnel chez IBM, nous expliquait que dans cette entreprise, quelqu'un qui entre est sûr de rester. Il peut partir s'il veut, mais il est sûr de rester. Je ne sais pas si c'est encore vrai maintenant avec les problèmes qui se posent, mais enfin, à l'époque, il y a 3 ans, c'est ce qui nous était affirmé. Emploi à vie, primat de l'ancienneté, ce n'est pas le jeune loup, le jeune cadre dynamique qui a le primat, mais c'est plutôt le père, l'ancien. Et on est dans un système social extrêmement différent. On a couronné là, l'empereur du Japon. Il est ancien, puisqu'il descend du soleil. Il est le 125e descendant du soleil, paraît-il. Alors, vous voyez quelle antiquité. Hein. Alors là, il y a une qualité aussi. Bon, il y a donc tout un ensemble, vous voyez, je passe. Hein. Si vous voulez, tout à l'heure, j'ai là quelques documents que j'ai apportés. Nous pourrons y revenir un petit peu. Mais je vous donne quelques aperçus sur ces problèmes des cercles de qualité, et je passe à un troisième point, toujours dans la situation actuelle, qui est un peu anecdotique, penserez-vous, mais qui me paraît significatif. C'est ce qu'on appelle Challenger Trophy. Challenger Trophy, oui, Challenger Trophy.
C'est de l'anglais que je prononce très mal.
Alors, ça, il s'agit, je vais aller là aussi très vite, mais je crois que c'est un symptôme assez intéressant de ce qui se passe dans le monde du travail actuellement. Ça se présente comme une coupe sportive inter-entreprise. Il s'agit de gagner un certain nombre de compétitions sportives. Alors, dans chaque entreprise, il va y avoir des sessions d'entraînement, et d'élimination par conséquent progressive des moins bons, de sélection donc, aux frais de la maison, organisée par le directeur de la communication. Vous voyez, c'est donc en plein dans notre sujet. Par exemple, on va citer le cas, une semaine dans un château en Grande-Bretagne pour s'entraîner, c'est pas déplaisant, et certainement que ça doit être plus agréable et plus épanouissant que la semaine de session de dynamique de groupe dont je vous parlais tout à l'heure, qui aboutit à des résultats quelquefois assez fâcheux. Compétition progressive, donc, dans l'entreprise, et ensuite entre les entreprises pour arriver à gagner contre les autres. Alors, ça dure des semaines, des mois, hein, des mois, et ça prend des week-ends, ça prend des semaines. Il faut imaginer cette emprise sur les personnes qui se lancent dans cette entreprise, précisément. Les résultats, c'est pas pour rien qu'on fait cela. Ça facilite les intercommunications dans l'entreprise. Les gens se connaissent mieux, autrement dit, pour employer des termes plus simples. Et cela, au point de vue horizontal, c'est-à-dire les gens de même niveau, les cadres, etc. Bon. Et au niveau vertical, car en sport, ce n'est pas la position dans la hiérarchie qui établit les performances, bien entendu. Connaissance ensuite de la maison, de certains de ces réseaux internes, parce qu'on parle entre soi, on essaye de voir un peu comment ça marche ici ou là, et on finit par avoir une idée plus exacte de la maison. Troisièmement, attachement à l'entreprise, bien entendu, puisqu'on se bat pour elle, et on est payé pour ça. Volonté de vaincre pour l'entreprise, lutte, directement dans le challenge, et ensuite, par effet de conséquence, indirectement, dans les productions de l'entreprise. On veut que son entreprise soit la meilleure dans les différents sports de la compétition. Et puis, par ce fait, on est entraîné à vouloir qu'elle soit la meilleure dans son cadre de production. Convergence donc avec les cercles de qualité. Par derrière, vous avez deux mots. Challenge, le challenge, le challenger, qu'est-ce que c'est? C'est celui qui lutte contre le tenant du titre. Donc, idée de lutte, idée de combat. Et trophée, qu'est-ce que c'est qu'un trophée? Je ramène mes trophées de guerre, j'ai scalpé mon ennemi. Il y a donc là, vous voyez, sous-jacent, une idée de combativité. On se bat pour son entreprise, on s'attache à son entreprise, ainsi. Jusqu'où va-t-on aller? Et est-ce que ça ne sera pas parfois dans cet attachement, dans cette espèce de combat pour l'entreprise, est-ce que ça ne sera pas au détriment de la vie familiale, des engagements dans la vie paroissiale, etc. De ce troisième point, je passe à mon quatrième et dernier, de la description de la situation actuelle, qui, sans découler du précédent, est très très proche, frère jumeau, mais c'est un faux jumeau, parce que c'est un jumeau beaucoup plus costaud que le précédent. C'est l'entraînement positif à la combativité systématique. Il y a maintenant des entreprises de formation à la combativité. Et le mois dernier, monsieur le recteur vous parlait de ces gourous de Steel New Age qui, lors de sessions de formation, ils sont payés très grassement. Une petite conférence, 70 000 francs, c'est pas mal. Hein. Bon, moi, j'en donnerais deux ou trois comme ça par an. Après ça, je pourrais donner de l'argent à l'Institut. Ces dix gourous que vous nous avez fort délicieusement décrits avec leurs vastes habits noirs, etc., essayent d'amener leur objectif plutôt à subir des violences physiques. On commence par vous gifler les gens, et puis moralement on les injurie. Il y a tout un ensemble de violences physiques ou verbales que l'on impose. Qui ont pour but de déstructurer les personnes. Nous avons vu que le Nouvel Âge se propose précisément cet éclatement de la personnalité. Alors, quand il a son temps devant lui, il peut être patient, et LSD aidant et autres productions ou publications, on arrive peu à peu au but recherché, à savoir ce néopaganisme où on est vibrant avec la terre et devenu en quelque sorte matériel dans ces espèces d'ondes cosmiques qui, paraît-il, nous traversent. Je ne m'en suis pas encore aperçu, mais enfin. Là, il faut se presser, car dans ces sessions, avec ces gourous très chers, que les entreprises se payent d'ailleurs, nous avons là quelques documents que, dont monsieur le recteur vous parlait l'autre jour, et qu'il m'avait passé, ces gourous qui séduisent les entreprises, ces séminaires de motivation, on y reçoit des gifles, mais on en repart avec un turbo dans la tête. Ah, oui, mais pourquoi faire? Ça va être avec un turbo. Moi, j'aimerais pas bien avoir un turbo dans la tête. Comment ça sortirait, tout ça? Je n'en sais rien. Alors, la personnalité éclate, bien entendu. Nous sommes en rapport avec le zen, avec le New Age. La conscience individuelle disparaît et on retrouve ce vieux paganisme dont on a eu des exemples il n'y a pas tellement longtemps, inspiré par Nietzsche, par toute cette idéologie dionysienne, païenne, chtonienne, la terre, puis tout ce grand symbolisme, vous vous souvenez de ces cérémonies, qui ne sont pas d'ailleurs propres à cette idéologie-là, qu'on a retrouvée aussi bien dans les idéologies marxistes, paganisme et totalitarisme post-chrétien, et qui s'enorgueillit d'être post-chrétien. Et vous savez qu'il y a des courants actuels qui, sans aller jusqu'à ces extrémités, le Gresseux ou autre, par exemple, qui ont pour but de remplacer le christianisme par un autre système de pensée et de vie qui ne tombe pas dans le marxisme et qui apporte une structuration extrêmement rigide à la vie humaine. Le travail par la joie, en quelque sorte. Oui. En rapport, tout cela, avec l'astrologie, parce qu'on trouve aussi une renaissance de l'astrologie. Et j'ai vu, dans mes pérégrinations dont je vous parlais tout à l'heure, un certain nombre d'ouvrages sur l'astrologie. L'astrologie à l'usine, l'astrologie dans le recrutement. On ne recrute plus seulement maintenant par l'analyse de l'écriture, par la graphologie, mais aussi par l'astrologie. Quand est-ce que vous êtes né? Quelle année? À quelle heure? Et alors, quelles étaient les conjonctions? Quels signes? Où était Jupiter? Etc. Alors, est-ce qu'on va vous prendre? Ah, si c'est pour telle équipe, vous ne pouvez pas aller parce qu'il y a des mercures qui sont là ou autre. Bon. Rapport à l'astrologie utilisée donc dès le recrutement. Et il y a toute une idéologie astrologique très puissante qui satisfait un besoin imaginatif de l'être humain et qui remplace la religion. La religion a une action, la religion révélée, la religion vraie, la religion que Dieu nous a apportée, a une action descendante sur l'imagination. D'en haut, elle organise notre vie imaginaire. C'est pourquoi nous ne sommes pas iconoclastes. C'est pourquoi nous avons une belle liturgie, etc. Alors que là, au contraire, c'est l'imagination qui est dressée directement en utilisant des lois extrêmement simples, des lois de continuité, de contiguïté, de ressemblance, de contraste, etc. Des lois qui régissent les particules matérielles, en quelque sorte, de façon à faire en sorte que les images s'agglomèrent et entraînent à des comportements qui deviennent quasi automatiques, comme dans tous ces grands rassemblements de foule. Vous savez que les meneurs savent utiliser tous ces moyens. Donc, rapport à l'astrologie, rapport à la gnose, brutalité, superstition, nous sommes là en plein, même, vous voyez, dans ces organisations de communication en rapport avec le travail. Nous sommes en plein dans un paganisme antichrétien. Aux sectes. Vous savez que, par exemple, une célèbre secte, celle de Moon, a mis, si vous voulez, a passé à la limite, puisqu'il recrute pour faire travailler, un peu comme dans des genres de camps de concentration, sans payer, en empêchant de dormir et de manger, de façon à avoir une emprise. Il faut quand même que ça rende un petit peu. Hein. Mais le but, c'est l'emprise sur les jeunes. Vous savez que Moon dirige tout à coup 150 mariages, à la fois, il décide, et hop, pouf! Quelqu'un m'a dit, ayant assisté à la chose, que Moon avait organisé et dirigé minutieusement dans les menus détails ces 150 mariages collectifs, et toi avec un tel, etc. Et alors il y a donc là, vous voyez, malheureusement, une satisfaction d'un besoin de religiosité qui est dans le cœur humain, de vie sociale, et également de vie dans l'imaginaire, d'attachement à un maître, à une autorité qui ne vient pas de Dieu. Un moon, c'est pas le soleil. Bon. Qui sont des plus dangereux pour notre civilisation actuelle. C'est une synthèse, en quelque sorte, de la secte et de l'entreprise. C'est le passage à la limite. Alors, j'ai vu, là, dans le Figaro, il y a quelques jours, une page qui m'a intéressée, jeudi 11 octobre, ça fait un mois et un jour. La revanche des littéraires. Les entreprises ont besoin de littéraires plutôt que de gourous scientifiques ou autres. Alors on nous donne une référence d'un nommé Alain Etchegoyen, l'auteur du Capital Lettres, qui soutient cette thèse, et de chefs d'entreprise qui lui donnent raison. Vive la philosophie ! Ah, dit un nommé Frédéric Tiberghien, président DGT. Qu'est-ce que c'est que DGT ? Je ne me rappelle plus. C'est un chef d'entreprise qui a fait Sciences Éco, Sciences Po, l'ENA, qui est philosophe et qui demande des philosophes dans son entreprise. On a besoin donc de littéraires et même de philosophes, voyez-vous, dans les entreprises. J'ai travaillé il y a une trentaine d'années avec quelqu'un dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, qui s'appelait Gaston Berger, qui était à l'époque directeur général de l'enseignement supérieur, après avoir été chef d'entreprise. Et je me suis trouvé très très proche de lui, parce qu'il m'avait confié des tâches, un certain nombre de tâches particulières, et je le rencontrais de temps en temps. Et il a fondé dans ces années 60 à peu près, un organisme qui s'appelait le Centre de Prospective. Prospective. Il entendait par là la recherche de l'organisation future, prospectare, voir devant, l'organisation future des entreprises de façon à ce qu'elles soient vraiment conformes aux exigences de la nature humaine. Et il avait là le Landowski, le président général de Kodak, Marcel Demonc, des Ciments, Racine, qui était conseiller d'État, je crois. Enfin, un certain nombre, il y avait un groupe là de personnes qui avaient un rôle social extrêmement important, et j'ai eu la chance de me trouver un peu associé à cela. Et c'est pourquoi à Grenoble, comme je vous le disais en début de cette conférence, quand je m'y suis trouvé, avec quelques deux ou trois autres collègues et le directeur de l'Institut d'études politiques, un professeur de faculté de sciences et un professeur de sociologie, et puis des chefs d'entreprise, nous avions fondé un centre de prospective qui, comme je vous le disais, pour les raisons que je vous ai indiquées, post 68 heures, l'université se repliant sur elle-même a cessé d'être un rapport avec les forces vives de la nation. Bon. Et Gaston Berger est mort là-dessus en 60, 61, je ne sais pas, de voiture. Et son entreprise a été vaguement reprise par certains. On a repris le nom de Jouvenel, je crois, a repris le nom. Mais c'est devenu quelque chose de tout à fait idéologique, théorique et très... Il m'a semblé, enfin bon, vous me direz peut-être que mon jugement est sévère. Je n'ai pas reconnu l'entreprise qui était lancée à l'époque. Donc cela... pour vous dire que cette entrée des philosophes, des littéraires, Gaston Berger était philosophe, docteur ès lettres en philosophie, après avoir été chef d'entreprise et directeur de cette entreprise immense qui s'appelait l'enseignement supérieur français, les universités françaises. C'était quelque chose. Hein. Eh bien, ce philosophe avait déjà vu que c'est la lumière philosophique dont a besoin l'entreprise, comme d'ailleurs les autres corps de la nation. Alors, ce que l'on redécouvre maintenant, là, ces livres-là qui viennent de paraître il y a quelques mois, on le redécouvre effectivement. C'est quelque chose qu'on a oublié, malheureusement. Car la prospective, vous avez bien compris, ce n'est pas de la planification. Ce n'est pas prolonger ce qui commence maintenant. Ce n'est pas une sorte de vaste plan monnaie ou un plan international quelconque. C'est l'établissement des fins et à partir des fins, par conséquent, des moyens adéquats. Qu'ils entrent dans les entreprises, c'est-à-dire qu'ils y retournent, ils n'auraient jamais dû en être chassés. Nous avions décrit les temps modernes, le film, ce qui était visible, hein, Charlie Chaplin, là, c'était la réalité visible. Mais quand on perçoit ce que les yeux voient, ce que les oreilles entendent, il faut encore que l'intelligence le comprenne. Or, de quoi s'agissait-il ? De la séparation du travailleur d'avec celui qui organise, l'organisateur, d'avec le consommateur, la matière étant là donnée comme ce à quoi il faut se consacrer, soit pour la transformer, soit au contraire pour la consommer, la faire disparaître, d'où l'obsolescence des produits qui a été, ça commence à ne plus être, mais ça a été longtemps un des impératifs de la production américaine. Pourquoi cette séparation du travailleur ? Quand est-ce que cette séparation du travailleur d'avec l'environnement de l'entreprise, d'avec la direction s'est produite ? Taylor, là-dedans, n'est qu'un symptôme, n'est qu'un maillon dans la chaîne. Le père de tout cela, c'est le chapelier, la loi, le chapelier, voté le 14 juin 1791 et qui a détruit les associations traditionnelles, les corporations. Car, dans ce qu'on appelle l'Ancien Régime, il n'était pas question d'établir ces espèces de grandes manufactures anonymes où les travailleurs sont réduits à une activité en miettes et esclaves de la machine. L'apprenti devenait compagnon, devenait maître et faisait un chef-d'œuvre. Il y avait là, entre l'homme, le travail et le groupe, des liens humains, c'est-à-dire des liens interpersonnels, des liens collectifs, des liens aussi dans l'exercice du travail, avec dans le rapport aux choses, le bois qui est travaillé, etc., des liens qui étaient les liens de la nature, les liens dictés par les exigences de la nature matérielle et humaine. Liens qu'on retrouve, dans une certaine mesure, dans le célèbre principe de subsidiarité qui veut que chaque groupe soit sous le contrôle, bien sûr, d'une autorité supérieure, responsable de ce qu'il fait. Eh bien, la loi Le Chapelier, c'est cette idéologie individualiste liée au capitalisme libéral. N'oublions jamais que le libéralisme est un fruit du XVIIIe siècle. Laisser faire, laisser passer, c'est déjà la permissivité. Et cette désorganisation du tissu social qui s'est accompagnée à tous les niveaux, destruction des provinces, destruction du régime politique, destruction de toutes les organisations qui existaient là, a émietté les groupes sociaux, a fait surgir des individualités réduites à elles-mêmes entre l'individualisme et le libéralisme qui va directement produire le capitalisme, l'organisation capitaliste, c'est-à-dire la séparation entre les possesseurs des moyens de production et les utilisateurs des moyens de production, il y a bien entendu un lien de nécessité qui apparaît immédiatement. On a séparé la matière travaillée donc du travailleur et également de l'utilisateur parce que il fallait le profit à tout prix. Le capitalisme libéral repose aussi sur la recherche du profit à tout prix. C'est donc une espèce de schizophrénie sociale, c'est une pathologie sociale. Nous vivons depuis 2 siècles, peut-être même un petit peu plus, dans la mesure où les idées qui mènent le monde ont déjà commencé à se préparer avant ces malheureux événements dont nous fêtons le bicentenaire. Alors ça va être bientôt, dans 7 mois, le bicentenaire de la loi Le Chapelier. Eh bien, c'est une pathologie sociale dans laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas dans une organisation saine de la société, de la vie sociale. Et c'est pourquoi les communications grippent, les êtres humains refusent d'être réduits à cette espèce d'individualité, producteur d'un côté, consommateur de l'autre, à cette solitude qui est terrible dans les grandes villes. Alors on rassemble des masses, on fait des grands meetings, exemple tout à l'heure, mais ça ne change rien à la solitude. Ça ne fait même que la renforcer, parce qu'il n'y a pas de lien réel. Ces liens structurés, ces liens d'amitié, ces liens de travail, ces interrelations efficaces et réelles. Et on va avoir l'attention attirée sur les problèmes de communication. Les communications, on va chercher à les faire fonctionner quand même, vaille que vaille, sans savoir que leur maladie provient de causes plus profondes. C'est comme si on croyait guérir d'une maladie grave en faisant tomber la fièvre par de l'aspirine. Or, depuis Platon, Aristote, je ne parle pas de saint Thomas, etc., tout ce qui est de l'ordre de la permissivité, de l'opinion, de l'émiettement des individus, de la disparition du lien social, tout cela est dénoncé comme faux et par conséquent inhumain. La fausseté mathématique, c'est ennuyeux, on a loupé son problème. Mais enfin, tant pis, hein. La fausseté dans l'organisation sociale, c'est beaucoup plus grave. C'est encore plus grave que la fausseté ou l'erreur dans l'ordre médical, parce que là, ça touche les gens un par un dans l'ordre médical. Je ne dis pas qu'il faut que les médecins se trompent. Mais enfin, quand c'est au niveau social, on n'y fait pas attention. Or, c'est beaucoup plus grave, parce que ce n'est pas quelques individus, c'est tout le monde qui en est victime. Je dirais pour terminer que l'erreur, nous la connaissons, nous aristotéliciens, c'est la séparation de la matière et de la forme. La matière est de son côté, et ma foi, on fait ce qu'on peut avec. La forme est d'un autre côté, et elle tourne à vide. La solution, c'est René Robin, dont je vous parlais tout à l'heure, l'homme des cercles de qualité, de la thèse de Dauphine, cite à plusieurs reprises Platon et surtout Aristote. Et quand il est venu chez nous, il m'a demandé mon Aristote. Il a dit, oh, mais je veux votre Aristote, parce que c'est un auteur extrêmement important. Or, Aristote, c'est l'illémorphisme. C'est la corrélation de ces deux principes qui ne sont pas des réalités séparées, qui sont relatifs l'un à l'autre, de la matière et de la forme, du sujet qui reçoit la détermination et de la détermination qui s'applique au sujet. Rétablir donc l'unité illémorphique et faire en sorte que l'âme intellectuelle et sociale, l'âme humaine, gouverne effectivement nos activités, hein, et par conséquent qu'elle se mette à sa place dans l'organisation qui est parcourue par l'autorité, mais par une autorité bien fondée, pas celle d'un gourou qui vous tient sous sa coupe par l'imaginaire, par votre imaginaire qu'il essaye d'entraîner à sa manière, mais l'autorité qui vient de Dieu. La seule autorité réelle, c'est l'autorité fondée, c'est-à-dire l'autorité qui vient de Dieu et que Dieu délègue aux personnes compétentes. À chaque fois, c'est la personne compétente. Donc, entre toute autorité vient de Dieu et le principe de subsidiarité, vous voyez, il y a évidemment un lien considérable, un lien essentiel. Cette tâche philosophique, donc, nous conduit à revenir à la vérité. Et c'est pourquoi je termine par où j'ai commencé. Il faut que la psychologie sociale, qui est le développement de la psychologie, en somme, puisque l'homme est un être social, qu'elle reste, ou qu'elle redevienne liée, en corrélation avec la philosophie. Elle est en quelque sorte la matière dont la philosophie est la forme. On ne peut pas séparer l'une de l'autre. Je m'excuse d'avoir été si long et d'avoir lassé votre attention, et je vous remercie de me l'avoir quand même prêtée.
Monsieur, je vous remercie pour cet exposé. Je ne puis que souscrire à toutes vos conclusions. Je tiens à dire que je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez d'affirmer. La solution, c'est l'illimorphisme. Ça semble un petit peu étrange, n'est-ce pas, comme il faut être aristotélicien pour dire des choses pareilles. Et pourtant, non, nous sommes tout à fait réalistes, nous n'avons rien d'extraterrestre, et c'est vrai, il faut retrouver cette unité.
La fiche bleue, c'est
exactement,
ça.
Exactement, oui. Il faut retrouver cette unité, n'est-ce pas, la matière et de la forme, c'est juste. Sinon, alors nous arrivons bien à une matière sans forme, c'est-à-dire, au fond, plus clairement, une matière sans âme. Et c'est le travail sans âme, et le travail sans âme, c'est le travail sans joie.
Vite, par exemple, il y a eu...
Vite, l'esclavage. Je ne veux pas prendre la parole, je veux la laisser à ceux de vos auditeurs qui souhaitent vous poser une question. Deux, trois. Ils sont émerveillés, ébahis. Alors ils les poseront en particulier. Voilà, madame, je vous en prie.
C'est une question qui inquiète beaucoup. Et j'ai eu entre les mains un ouvrage publié par une grande collection populaire, Marabout, pour ne pas la nommer, qui donne des conseils pour réussir les tests de recrutement. Réussir les tests d'entreprise ou réussir les tests de recrutement, je ne me souviens plus exactement du titre. Et on donne, il y a eu là des tests qui sont proposés. Il n'est pas question d'astrologie, c'est un petit peu ancien. Alors, dans le recrutement, il est difficile de vous donner une réponse simple parce que c'est extrêmement variable. Vous savez que depuis déjà pas mal d'années, on demande un curriculum vitae manuscrit. Et cela, bien sûr, c'est pour soumettre cette page d'écriture à un graphologue. Alors, les graphologues, il y en a de tous les acabits. Et il est très difficile de savoir si on tirera vraiment des conséquences valables. Bon. Quand on a été sélectionné après le curriculum, il y en a des tas qui sont écartés, on ne répond même pas. Bon. Nous avons une voisine qui avait, je ne sais plus quel diplôme, bac plus 2 ou 3, je ne sais plus, et qui s'est trouvée sans travail, jeune hein, pourtant, et qui avait envoyé comme ça des centaines de réponses. On ne répond pas. Des centaines de réponses à des annonces, et elle n'a pas reçu de réponse en retour, sauf d'une ou deux. Alors, donc, il y a des quantités de gens qui sont éliminés simplement sur le curriculum, probablement la graphologie ou le contenu du curriculum, je ne sais pas. Ensuite, donc, quelques-uns sont convoqués. Alors, il y a un entretien, la plupart du temps. Alors là, on a affaire encore à, la plupart du temps, un psychologue qui a été formé à l'entretien. Dans les instituts de psychologie, il y a une formation systématique à l'entretien, à l'écoute, qui consiste d'une part, bien sûr, à entendre, enregistrer ce qui est dit, à poser quelques questions, voir des questions suffisamment habiles et fines pour voir s'il n'y a pas des mensonges par-ci, par-là, parce qu'on analysera les contenus ensuite et on verra si tout est bien cohérent. Il y a des pièges, en quelque sorte. Il faut être sincère. Ça, c'est pas la peine d'essayer de tromper, il faut être sincère. Il ne faut pas présenter de soi une fausse image. Ils s'en apercevront. Et là, on est fichu après. Et d'autre part, observation du comportement, car bien sûr, les psychologues ont été dressés à ça, le mode d'expression, le visage, la tenue, etc. Alors, il y en a qui attachent une très grande importance à cela. Ça, c'est assez variable aussi. Et enfin, des épreuves, des tests. Alors, ça dépend évidemment du poste pour lequel on concourt. Il y a très souvent, au niveau maîtrise ou cadre, des tests d'intelligence. Alors, dans le petit ouvrage dont je vous parlais, il donnait des exemples de tests classiques, déjà un peu anciens, tests de domino, des tests divers, des tests de compréhension de phrases, etc. Il est certain que il n'est pas mauvais d'avoir une petite idée du genre d'épreuve qu'on passera, parce qu'on peut être un peu désarçonné et perdre du temps, parce que le temps est limité la plupart du temps. Certains tests n'exigent pas un temps limité, mais il faut savoir qu'assez souvent le temps est limité. Le D48, je ne sais plus si c'est 20 minutes, je ne me souviens plus. Enfin, il y a une limite de temps qui est indiquée dans les consignes du test. Et puis alors, il y a aussi chose beaucoup plus dangereuse, les tests projectifs ou tests de personnalité. Le fameux test de Rorschach, on présente des taches d'encre plus ou moins colorées. Et qu'est-ce que vous voyez là-dedans ? Décrivez. Ou bien alors, le TAT... demeurait, qui présente des espèces de scènes où il y a quelques personnages et on ne sait pas trop ce qu'ils font. On peut interpréter de diverses façons. Et souvent, il y a un homme, une femme, ou... Enfin, la plupart du temps, il y a deux personnages. Quand il n'y en a qu'un, c'est qu'il se trouve dans une situation tout à fait particulière. Alors, que voyez-vous ? Que voyez-vous là ? Il y a aussi des tests projectifs. Alors, ce que l'on prétend dans ces tests projectifs, c'est à partir de ce qui est dit, librement. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne réponse. Toutes les réponses sont bonnes, on vous prévient. Ce n'est pas un test d'intelligence où il faut trouver la solution. Vous dites ce qui vous plaît par rapport à ce qui vous est présenté. Alors, c'est donc la projection. Le sens du terme vient de là. La projection de ce que l'on ressent devant telle image de situation, ou devant tel agglomérat de taches d'encre. Et à partir de cette projection, on va essayer de revenir sur votre personnalité, sonder les reins et les cœurs, vous voyez. Et alors, il y a aussi d'autres types de tests projectifs qui consistent à faire dessiner un arbre, par exemple, hein. Quelquefois, on dit dessiner un arbre fruitier, test de l'arbre. Alors, d'après la manière dont vous dessinez, ou bien alors, faites un paysage avec une maison, un homme, une femme, une voiture, une source, etc. On donne un certain nombre comme ça d'éléments à placer. Et selon la manière dont vous dessinez, et on vous prévient que ce n'est pas le côté artistique qui compte, mais que vous êtes tout à fait libre, faites le dessin qui vous plaît, et il sera examiné, non pas dans sa facture esthétique, mais dans ce qu'il représente, dans ce que vous avez voulu représenter.
Il me semble que ce qui est dangereux, finalement, il me semble quelque chose qui n'est pas clair, déjà. Il me semble qu'on cherche justement à affaiblir finalement la personne, pour mieux la soumettre par la suite.
Certainement. Oui, vous avez tout à fait raison. On cherche à trouver l'être malléable qui s'intégrera sans difficulté. Aussi, d'autres entreprises ont-elles une autre méthode, et au lieu d'envoyer des annonces dans le Figaro du lundi, où il y a 150 pages d'offres d'emploi, dans les deux cahiers, hein, et deux, là. Je ne fais pas de réclame pour le Figaro. Il est là, il se trouve par là. C'est lui qui fait sa réclame. Au lieu de faire ainsi, s'adresse soit à des personnes, soit à des institutions, pour leur demander auriez-vous tel collaborateur à nous proposer. Lorsque j'étais directeur d'institut et responsable de psychologie du travail, on m'a demandé. Certaines entreprises qui me connaissaient m'ont demandé, voilà, c'est pas offre d'emploi, hein, public, c'est personnel. Avez-vous quelqu'un, voilà tel poste, avez-vous quelqu'un pour mettre dedans ? Et je dois vous avouer, nous avions un bac plus 5, c'est-à-dire bac plus 4, c'est la maîtrise, la psychologie, et bac plus 5, c'est la cinquième année, diplôme d'études supérieures de psychologie du travail, vous voyez. Nous avions là un nombre d'étudiants qui tournait autour de la douzaine à peu près. Il y avait 40 candidats, mais nous ne prenions que ceux que nous jugions aptes à recevoir cette formation, étant donné d'abord qu'il fallait vraiment s'en occuper, s'investir dans ce travail de formation à fond, et leur donner des lieux de stage que nous connaissions solides où ils puissent commencer à apprendre leurs futures tâches. Alors, nous avions donc quand même 12 à 15 étudiants. Eh bien, il est arrivé qu'à la demande de tel directeur de personnel d'une très très grosse entreprise, une des plus grosses entreprises de France, je n'ai pas pu répondre. J'avais 12 étudiants qui sortaient avec le diplôme. Parce que je suis pas seul, on n'est pas seul hein, quand on travaille à l'université. On a des collègues et vous savez que la démagogie actuelle fait que les diplômes sont distribués comme les prospectus dans une manifestation. Alors, c'est pas à mes collègues qui s'adressaient, c'était à moi. Hein. Il est arrivé plusieurs fois que je ne puisse pas, sur la douzaine d'étudiants qui sortaient diplômés, en envoyer un à telle entreprise qui me le demandait. Et qui me le demandait parce que la personne qui était à cet endroit était un de mes anciens étudiants et qui savait quelle était la formation et les exigences. Alors, il y a cette autre méthode, vous voyez, de recrutement. Méthode que certains récusent en disant c'est du piston, c'est du népotisme, etc. Non, on s'adresse aux gens compétents. Qui est-ce qui est compétent pour recruter un psychologue du travail? Est-ce que c'est celui qui va être là et qui va faire passer quelques tests et qui, à partir de ces tests, va avoir quelques impressions, plus ou moins justifiées? Ou est-ce que c'est celui qui, depuis un an, dans le diplôme, et quelquefois 3-4 ans, dans l'ensemble du cursus universitaire, connaît les étudiants? Bien sûr, poser la question, c'est y répondre. Hein, c'est évident. Alors, c'est pourquoi, alors je dis ça pour cet exemple-là de psychologie du travail, mais c'est vrai pour tout. Je sais que certaines entreprises font appel à tel établissement spécifique pour recruter des personnes dans des postes particuliers, sans passer par les petites annonces.
Ernest, juste trois petites remarques. D'abord, il faut bien que quelqu'un fasse l'éloge des mathématiques. Les mathématiques sont quand même une école de rigueur de pensée que l'on ne trouve pas toujours dans les disciplines littéraires. Il n'est qu'à voir comment une version latine peut être diversement appréciée, tandis qu'un problème de physique, il est juste ou il est faux. D'ailleurs, les erreurs de calcul peuvent avoir des conséquences sérieuses. Si un pont s'écroule ou si un barrage s'ouvre, c'est quand même fâcheux. Mais ça, c'est pour ça probablement que quelqu'un qui est fort en maths, on sait déjà qu'il a une certaine rectitude de pensée que malheureusement, et faute d'un enseignement approprié, on ne trouve pas toujours dans les disciplines littéraires. Donc, je ne parle pas de la philosophie, mais surtout les autres. La deuxième, c'est que là, vous l'avez très bien dit, il faudrait peut-être revoir la finalité de l'entreprise. Finalement, une entreprise, ce n'est pas fait pour gagner de l'argent. Une entreprise doit gagner de l'argent, c'est une nécessité, comme le boire et le manger. Sans parler de ce que Rabelais aurait ajouté. Mais de même que je ne vis pas pour boire ou pour manger, l'entreprise ne vit pas pour avoir de l'argent. Et pourquoi vit-elle? Pour rendre un service. Et c'est ça le cercle de qualité que vous avez très bien dit. Et précisément, les Japonais ont raison de mettre l'aspect sur rendre un service. Et je puis vous dire que lorsque un petit groupe, et je suis dans une reprise très atomisée, a la sensation vraiment de rendre un service, je me rappelle en 68, qu'avez-vous fait pendant la grève? C'est très bien, nous en avons profité pour ranger le magasin. Tant qu'il y aura des ouvriers en grève qui en profiteront pour ranger le magasin, c'est signe qu'ils avaient un sens du service à rendre. Et ce qui m'amène à donner un aspect sur ce qui est complètement oublié dans toutes les entreprises actuelles, c'est le rôle du chef. Il n'y a plus de chef. On a des gestionnaires. Et ça gestionne, et ça regestionne, et ça allonge des chiffres. Mais le chef, on ne l'a pas. Le chef, c'est celui qu'on suit. Comme ce protestant, le capitaine Merle, dont ses soldats disaient « Je le suivrai en enfer, fut-il peuplé de 500 000 diables ». Ça, c'était un chef. C'était pas du bon côté, mais ça, c'est ça. Donc, il faut des chefs. Et là, il n'y a plus de chefs. Et je crains que dans ces entretiens, hélas, on a peur des chefs. J'en ai connu deux dans ma carrière, c'est déjà pas mal. Maintenant, je n'ai plus que des chefs comptables. C'est lamentable.
On remercie infiniment M. le professeur Millet.